Les archives d'Afrique. Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Depuis plus de 15 ans, tout en prônant la démocratie au Niger, je ne dirais pas la totalité, mais presque, aussi bien au niveau de ceux qui ont eu à assumer une responsabilité gouvernementale, qu'au niveau de certains dignitaires du parti qui a eu à s'installer au Niger depuis 1958, lors du référendum. À ces deux niveaux, dis-je, les mêmes personnes sont restées aux rênes de commande. Je ne dirai pas que vous serez d'accord avec moi, mais le pouvoir use.
Arrivé à la tête du Niger à la suite d'un putsch militaire qui a mis fin au régime du président Yoweri Amani, à la tête du pouvoir depuis l'indépendance proclamée en août 1960, Sékou Kouchné a décidé de rendre sa dignité aux Nigériens, en lui donnant à manger, en mettant fin aux images de famine qui collent désormais à son image. Ambitieux programme dans ce grand ensemble sahélien aux portes du désert, brûlé par le soleil.
Il fallait de ce fait fixer des priorités, en l'occurrence la recherche de l'autosuffisance alimentaire, la reconstitution d'un cheptel qui a été décimé, des programmes de forage pour la satisfaction en boisson aussi bien des hommes que du cheptel, mais des forages qui pouvaient être aussi et permettre d'entreprendre des irrigations. Notons en passant que si pour un certain nombre de pays, ces pays peuvent disposer de pluie en quantité dans le temps et l'espace. Dans le Sahel, il ne pleut que de l'ordre de 3 mois et demi par an. Ce qui fait que la principale activité des populations pour la recherche de l'autosuffisance alimentaire est limitée. L'objectif que nous recherchons, c'est de pouvoir mettre à la disposition de ces populations des moyens leur permettant d'entreprendre une deuxième culture.
Si dans cette lutte pour l'autosuffisance alimentaire il marque des points, s'il obtient rapidement des résultats dans le sens d'une légère amélioration de la condition des masses, sur le plan politique, Sékou Kouchné est un autocrate. Pas question de contestation. Toute opposition à son pouvoir est immédiatement matée. On s'installe progressivement dans un état policier où les prisons se remplissent à grande vitesse. Sékou Kouchné a décidé de se séparer de ceux avec qui il a pris le pouvoir. Désormais, à Niamey, le climat de confiance qui avait donné naissance au CMS, le Conseil militaire suprême, a laissé place à la peur dans les rangs même du gouvernement militaire. Après Sani Sou Nassido, le vice-président du Conseil militaire suprême, qu'il fait arrêter et assassiner sauvagement dans le désert, sous le prétexte d'un simulacre de tentative de putsch, la purge continue au sein du régime. Idrissa Harouna, son compère de la première heure, celui qui l'associe au coup d'État, qui va le conduire au pouvoir, n'échappera pas non plus à cette purge.
Le 5 septembre 1978, c'était le lendemain de la fête de Tabaski, il m'avait appelé pour me dire de passer à l'état-major, de passer à la présidence. Je suis allé le voir et d'emblée il m'a dit qu'il va remanier son gouvernement et que je n'en ferai pas partie. Que de tout temps, il y a eu des divergences entre nous et qu'il n'est pas question de m'arrêter, mais on va se séparer. Ma réponse a été la suivante. Le bon Dieu n'a dit à personne ce qui se passerait demain. Et nous sommes séparés.
Il faut dire que la famille du président s'est fortement impliquée dans les affaires de l'État. Et la psychose sécuritaire qui prévaut donne lieu à toutes les suspicions. Idrissa Harouna.
La distance qu'il y a eu entre moi et Sékou Kouchné, c'est probablement d'abord, en premier lieu, Bonkano. En deuxième lieu, certains membres de sa famille. Parce que, à un moment donné, on a laissé entendre que je voulais faire un coup à Sékou Kouchné. Or, je pense que j'étais tellement lié à cet homme-là que trahir n'est pas dans mes habitudes. Je ne suis pas un traître.
Amadou Oumarou Di Bonkano, homme lige du président et l'un des organisateurs du putsch.
Idrissa, une fois fini avec Sani, il s'est accroché aussi à moi. Alors là, quand il est arrivé maintenant, il fallait absolument que celui qui connaît tous les secrets soit aussi écarté. Il décidait donc de mettre, comme vous l'avez dit, un autre marabout, mais il n'a pas trouvé marabout, il a trouvé plutôt sur le plan africain un charlatan, qu'il a connu d'ailleurs à travers moi, où un jour un de ses gosses était malade et puis l'intéressait. Moi j'étais très occupé, maintenant je pouvais plus s'occuper de conseiller le président et puis conseiller d'autres. Je lui ai montré l'intéressé pour qu'il puisse l'aider. Il l'a aidé, il a soigné le gosse et puis bon, ben lui, il a gardé l'intéressé pensant que bon, il va m'écarter pour pouvoir mettre celui-là qui ne connaissait plus comment les choses se sont passées jusqu'à arriver là. Et là, effectivement, Kounké n'était pas d'accord. Mais encore une fois, de rivalité en rivalité, parce que les gens pensent toujours que c'est parce que nous sommes bagarrés que Kounké a décidé de choisir Bonkano et puis lâcher Idrissa. Les choses ne sont pas passées de cette façon-là rapidement. C'est les deux épouses aussi sont parties au Marseille sur Cézanne Bizoukier. Donc l'un a copié le collier de l'autre et il y a eu des bagarres entre les deux femmes. Et c'est ça le but réel qui a poussé que Kounké a affecté Idrissa en signe comme ambassadeur.
L'épouse Cézanne Kounké avait vraiment une influence sur son mari. Malheureusement, effectivement, il fut un moment où les relations entre cette dernière et mon épouse n'étaient pas, en tout cas, des meilleures.
Idrissa Harouna, lui, a plus de chances que Sani Souna Sido, qui a été torturé et tué dans des circonstances atroces dans le désert. Il est envoyé comme ambassadeur du Niger en Chine. Kounché est désormais le seul maître à bord.
À partir d'aujourd'hui, il y a un seul capitaine à bord du bateau. Niger, c'est moi. Ça, cette phrase, il l'a dite en 1976.
En 1980, le colonel Kounché va rendre la liberté au vieux boubou notable de l'ancien régime. Il élargit Djibo Bakary, ancien porte-parole de l'opposition de gauche, et assouplit l'assignation à résidence de Diori Amani qu'il transfère de Zinder à Niamey. Le président Kounché va aussi mater sans faiblesse les quelques grèves d'étudiants de 1982. Ainsi, avec la répression et les difficultés économiques, c'est le silence dans les campus. Si sur le plan intérieur, Séné Kounché, qui s'est fait général de brigade en 1983, ne se distingue pas par son sens de la démocratie, sur le plan international, il jouit d'une grande notoriété. Il séduit par ses résultats. L'administration fonctionne, la corruption est limitée et la dette publique supportable. Sa quête de l'autosuffisance séduit ses partenaires. Tout en préservant le rôle central de l'armée, le général Kounché vide progressivement son gouvernement des derniers ministres militaires et les remplace par des techniciens. Il réfléchit en termes nigériens sur les problèmes nigériens, en se méfiant des idéologies et autres recettes philosophiques et économiques importées. C'est l'essence même de la société de développement qui représente son joker contre la pauvreté et pour l'autosuffisance alimentaire.
Le kilo de sorgho que nous amenions, qu'on amène de l'Oklahoma, ou bien le riz qu'on amène de la Camargue, ou le blé qu'on appelle peut-être des grains des étendues du Canada. Si on nous donnait le prix du transport, peut-être que nous pourrions produire plus de kilos et plus de tonnes. Et nous pourrons recouvrer notre dignité.
Pour le président Séné Kounché, l'une des solutions à cette question de famine réside dans le développement des cultures de contre-saison. La saison des pluies ne durant que 3 mois au Niger et ne pouvant ainsi subvenir aux besoins de la population. Un deuxième équilibre réside, selon le président Kounché, en une rationalisation de l'élevage, qui est une activité génératrice de devises pour son pays. Il faut, selon lui, améliorer la qualité du bétail et surtout limiter le nomadisme du cheptel qui détruit le couvert végétal et accélère la désertification. Pour normaliser les choses, le président Kounché va avoir recours à une organisation de la jeunesse qui existait bien avant la colonisation. C'est ce qu'on appelait les Samaria. Mumu Niger-Makoy était un des principaux ministres de son gouvernement qui a été, entre autres, en charge de ce programme. Il explique ce qu'étaient ces Samaria.
Une sorte de collectivisme, quand bien même il se gardait de le dire. Et il ne voulait pas absolument des ismes. Collectivisme, libéralisme. Il voulait une voie nigérienne de développement qu'il a appelé lui-même société de développement. En ce moment, il y a eu le boom de l'uranium Et l'essentiel, je vous le dirai, des revenus de l'uranium est allé justement à la production agricole et alimentaire du Niger. Et c'est cela, la chance des grands hommes. Ils ont leur génie propre, mais quelque part, il y a 1% de chance. Je pense que l'uranium en a été pour quelque chose qui a permis de faire connaître Kountché et son œuvre.
La stabilité du régime qui contribue à la bonne image de marque de Sénie Kountché n'est pas à toute épreuve. Septembre 1983, il règne une curieuse ambiance dans les milieux policiers et militaires de la capitale nigérienne. Très secrètement, des officiers se rencontrent de l'autre côté du fleuve, chez Bonkano, que le président a chargé depuis plusieurs années déjà d'entretenir les militaires. Il faut préciser qu'enrichi par des contrats juteux offerts par son ami le président Kountché, le richissime homme d'affaires et tout puissant Bonkano est la cassette qui achète la docilité et la fidélité des officiers. Jean Poisson, ancien directeur de cabinet du président Kountché.
Il tenait les officiers par l'argent. Quand un officier a un problème chez lui, la femme, un baptême, une mort, Kountché est toujours là pour banquer. C'est une grosse somme d'argent qu'il jette auprès des militaires.
L'homme de confiance du président croit son heure venue. Il se sent menacé par la famille de Kountché. Alors, il faut passer à l'action. Amadou Marou dit Bonkano.
C'est que certains pensaient, de toute façon, c'était la fin du régime. Il fallait trouver une pièce d'échange. Sinon, on ne s'en sortira pas et tout ça là. Bon, ben, ils en parlaient seuls jusqu'à ils ont amené ça chez moi. Et en même temps, le menace de famille qui a fait, moi et Kountché, 3 ans, on maîtrisait ça. On a arrivé où nous-mêmes, on ne pouvait plus maîtriser ce que la société civile disait et sa famille et tout ça là et sa maladie. Et il a été, on était un jour donc demain annoncé la maladie. Une fois il a annoncé ça, d'esprit, regardez bien ce qui peut m'arriver s'il disparaît sur place et que je suis sur ce terrain là. Nous avons décidé donc de donner réponse à certains officiers qui réclamaient qu'on l'écarte.
Mais qu'est-ce qui vous a vraiment décidé à engager une telle entreprise contre votre ami?
Comme nous étions là pour dire, monsieur le président, ça, c'est pas bien. Aujourd'hui, votre frère a acheté 4 villas. 50 millions, 50 millions. Ça, c'est pas bien. Monsieur le président, nous venons juste, c'est un notaire qui nous a rendu compte que un de vos petits frères vient d'acheter tant de terrains. Une banque vient de nous signaler transfert de 400 millions. Pour quelqu'un qui touche 150, mais il habite même pas au capital, il travaille dans un des départements, ça, ne pense pas que si ce transfert-là, les gens ne le voient pas. Bon, voilà le genre de trucs qu'on dit au président, avec preuve, qui gêne la famille. Ce qui fait famille, la famille a décidé, eux, ce jeu, de se débarrasser de Bonkano.
C'est donc dans ce contexte que vous décidez de passer à l'action. Comment échafaudez-vous votre plan?
Je n'avais pas l'intention d'avoir sur mon dos la mort d'un ami. J'évitais, en tout cas, qu'on attaque son domicile ou on le blesse ou quelque chose arrive à sa famille sur place. Ce qui fait qu'on a fait des propositions rapides. Il faut le prendre chez toi. Si tu l'appelles, il vient. On le prend sur la route, etc., etc. Ça n'arrive pas à me convaincre. Moi, j'ai fini par négocier son départ. Et j'ai dit, première condition, qu'il ne soit pas dans le pays. Deuxième condition, j'entoure sa maison au moment même de l'opération qu'on ne touche pas à ses enfants et sa femme.
Sa décision est prise. Il doit renverser Sénie Kountché. Dans un pays aussi policier que l'était le Niger, un complot comme celui-là ne peut rester longtemps secret. Mais le personnage mis en cause cette fois-ci est trop puissant et trop proche du régime pour que les services de renseignement puissent en informer le chef de l'État avec aisance. Surtout qu'il s'agit de son ami personnel, celui qui l'écoute le plus. Abdallah Wafi, le chef des services de renseignement du président Kountché.
Nous avions eu vent de ce qui se tramait. Nous avions rendu compte au président Kountché par écrit, les archives l'attestent, elles sont là disponibles. Nous avions rendu compte verbalement, nous avons entrepris un certain nombre d'investigations qui n'ont pas abouti, mais somme toute, compte tenu de la nature des personnalités impliquées dans ces événements, compte tenu de leur lien avec le président Kountché et de la position qu'ils occupaient dans le système sécuritaire, il était difficile de prévenir ce genre d'événements. Et je pense que c'est ce qui explique que malgré les fuites, malgré les soupçons, malgré certaines informations, rien n'a été fait pour mettre fin à cette tentative.
Certains hauts gradés mis au courant du complot qui se trame sont eux aussi sceptiques. Trop gros pour y croire. Le président Ali Chebou était à cette période-là le chef d'état-major des armées.
Pour nous, c'était incompréhensible qu'à peine quelqu'un qui sait lire et écrire puisse prendre le pouvoir quand même et diriger un pays.
Et pourtant, malgré l'appréhension des uns et le scepticisme des autres, la rumeur parvient tout de même aux oreilles du président Kountché. Amadou Barou, dit bon canon.
Parmi nous, il y avait un qui lui rendait compte 100%. Nous, on ne le savait pas. Bon, les gens, si vous voulez, la police, regardaient certains intérêts qu'ils faisaient, mais ils avaient peur. Ceux qui travaillent même direct avec moi, ils avaient peur de parler sur un officier. Ils voyaient, parce qu'ils quittent là-bas, ils viennent ici, à certains gères, ils ne comprennent pas. Confidence pour confidence, j'ai même eu ici, un matinée, je prenais le café sur cette table-là, un de mes officiers de police est venu me dire, patron, aujourd'hui là, je suis obligé de parler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ça fait 4 jours de manière que je te vois là. Si moi je faisais partie des gens qui devaient faire une enquête, je vous arrête tout de suite. Vous êtes dans un complot. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, c'est ma formation. Il faut faire attention. Maintenant, il faut essayer de changer le comportement. S'il pouvait retourner dans la même peau, si c'est possible. J'ai dit, bon, moi je ne crois même pas avoir sorti de ma peau. Il dit, si. Ça fait 4 jours que vous n'êtes plus sous la terre. De façon de nous parler, et tout est chef. Or, chef égale promesse de chef quelque part. Au début, vous nous parlez en tant que camarade. Et nous, nous décidons que vous devenez chef. Et maintenant, vous avez décidé de nous parler en tant que chef.
Séné Kountché réagit très curieusement. Contrairement à ses habitudes, il n'envoie pas des militaires en finir avec le poulet comme il l'avait fait pour Sanissou Nassido, son ex-vice-président. Certainement à cause du rôle que jouait auprès de lui ce personnage, il choisit une autre méthode. Il décide de rencontrer son ami Bonkano pour lui parler d'homme à homme, les yeux dans les yeux. Bonkano.
Kountché trouvait possibilité de me rencontrer pour me dire cette affaire-là avant son départ. Et il n'avait pas prétexte rapide. Il m'a dit tout simplement, moi je ne pars pas, cette affaire ne m'intéresse pas tellement. Et puis bon, de toute façon je suis malade, je ne vois pas pourquoi aller s'asseoir au milieu des gens. Je ne sais pas quand ce truc-là... Parce que le docteur Gentilini m'a signalé que je risque d'avoir de suites que je n'arrive pas à contrôler. Je peux tomber. Et si c'est le cas en France, je trouve que ce n'est pas bien pour le Niger. Bon, il a essayé de me faire avouer, si tu veux, mes besoins de son départ. J'ai dit non, il faut que vous partez. Il m'a dit donne-moi la raison. Même si c'est un, ça suffit. J'ai dit non, si vous ne partez pas, Sankara ne partez pas. Sankara est anti-français comme vous maintenant. À travers au fouet, vous êtes en train de ménager le français et tout cela. Mitran d'ailleurs a passé visite ici. C'est vraiment, vous ne pouvez pas ne pas partir à son appel, tout cela. Il m'a dit, bon, tu m'as convaincu en tant que conseiller, mais moi je souhaiterais te rencontrer demain soir chez toi. J'ai dit, oui, mais il n'y a pas de problème. Comme nous nous voyons chaque fois dans le petit bureau que vous avez vu, où nous devons nous retrouver tout à l'heure. Il m'a dit non, je préfère au village natal. J'ai dit, pourquoi? Il dit oui, mais c'est là-bas qu'on prépare le coup d'État. Tu as oublié qu'on a préparé 15 avril là-bas? J'ai dit oui, oui, oui. J'ai commencé à soupçonner qu'il avait quelque chose à dire. Et comme entre nous, nous ne nous cassons rien, en dehors de tout simplement qu'on évite de s'étouiller. Mais le reste, on peut le dire, on s'en fout. J'ai accepté le rendez-vous de 10 heures.
Que va-t-il se passer au cours de ce rendez-vous de 10 heures? Le président Séné Kountché va-t-il neutraliser son marabout, son homme liche, comme il l'a fait pour les autres membres du Conseil militaire suprême qui représentait une menace pour son pouvoir? Pourquoi préfère-t-il lui donner rendez-vous plutôt que de le faire arrêter comme de coutume? Les heures qui vont suivre s'annoncent mouvementées parce que Bonkano, lui, a de la ressource, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Séné Kountché. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal. Restez à l'écoute.
Archives d'Afrique, à la FOCA.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Prouvez-moi le contraire. Est-ce qu'on peut faire d'un véritable démocrate quelqu'un qui est mentalement sous-développé, matériellement sous-développé et qui n'arrive même pas à satisfaire ses besoins primaires? D'où notre démarche, c'est notre conception. L'histoire dira si nous avons tort ou si nous avons raison.
Mais en attendant le jugement de l'histoire, lui a choisi de mener son pays comme on mène une armée. Et les premiers résultats se font sentir, puisque la famine qui frappe régulièrement les Nigériens semble quelque peu maîtrisée. Avec sa conception, il a mis les Nigériens au travail. Et partout sur ce vaste territoire aux portes du désert, on s'active autour de l'agriculture et de l'élevage, avec un vrai programme de développement. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Séni Koundé. Si sur le plan économique ou social, on observe une réelle amélioration, sur le plan politique, Koundé est intraitable avec tous ceux qui représentent une menace pour son pouvoir. En quelques années, il s'est débarrassé de la plupart de ceux avec qui il est arrivé aux affaires. Le dernier en date, Idrissa Haruna, l'initiateur du putsch qu'il a hissé à la tête de l'État, a été gentiment éloigné de Niamey. Il l'a envoyé comme ambassadeur du Niger en Chine. Cette fois-ci, la menace vient de son principal complice et ami, son marabout, son homme lige, Amadou Oumarou d'Ibon Kano, celui qui l'a chargé depuis plusieurs années déjà d'entretenir les militaires. Il faut préciser que, enrichi par des contrats juteux offerts par son ami, le président Koundé, le richissime homme d'affaires et tout-puissant Bonkano est la cassette qui achète la docilité et la fidélité des officiers. Cette fois-ci, il a compris que Bonkano croit son heure venue. Il est au courant du putsch qu'il prépare. Et contrairement aux autres officiers qu'il a simplement et purement fait exécuter, comme le vice-président Sani Souna Sido, accusé de complot, il choisit de donner rendez-vous à son ami, chez Bonkano, où ils avaient préparé le putsch d'avril 1974.
J'ai commencé à soupçonner qu'il avait quelque chose à dire. Et comme entre nous, nous ne nous cassons rien, en dehors de tout simplement qu'on évite de s'étouiller. Mais le reste, on peut le dire, on s'en fout. Et j'ai accepté le rendez-vous de Niger.
Chez Kamadou Marou dit Bonkano.
Il m'a dit, bon, voilà ce qui m'a amené. Je sais que tu vas essayer de prendre ce pays demain soir. Les propos que j'ai reçus au cours de certaines de vos réunions me vont direct au cœur. Vous ne voulez pas que je sois tué, vous ne voulez pas qu'on tire sur ma famille et vous voulez m'amener en France si vous aurez le pouvoir et me soigner et me ramener dans mon village natal. C'est très bien. Seulement le fait que vous ne voulez pas me tuer, je vais vous éviter d'être tué aussi. Et ce que je vais vous dire là n'est pas pour vous dissuader. Il faut l'écouter bien. J'ai dit non, monsieur le président, à partir du moment où vous êtes au courant et que vous en parlez, ça veut dire que vous voulez que je laisse, il n'y a pas de problème si vous me le demandez. Il dit non, tu ne peux pas. Si tu recules maintenant, tu vas avoir au-dessus de moi. Parce que je serai obligé de te tuer. Parce que cette affaire va sortir peut-être dans 3 jours. Tellement que tes gens sont devenus des agitateurs ouverts, on ne peut pas. Un officier ne peut pas commencer une opération militaire, l'arrêter. Ce que j'ai à te dire, maintenant tu fais ce que tu as à faire. Il m'a dit, tu vas à cette armée, tu ne le connais pas. J'allais même te dire, sans que je sois chef d'état-major avant de devenir président, cette armée, c'est mon armée. Tous ces officiers-là sont sortis devant mes yeux. Je les connais tous militairement. Je connais la famille de tout le monde et je connais le caractère de tout le monde. Cette armée, il y a 3 groupes. Un groupe que grâce à moi, je te l'ai remis. Ils ont tellement bouffé, ils sont devenus pour toi. Il y a un autre groupe qui, lui, même moi, je ne peux plus l'avoir. Et il y a un groupe qui m'appartient que tu ne peux jamais avoir. Voilà le problème devant lequel tu vas te retrouver demain soir. Ça, tu ne l'as pas préparé. Et j'ai peur qu'à un certain moment donné, tes mêmes gens-là t'étuient pour donner d'autres explications, te rendre tout simplement le comploteur trahissant son ami pour telle cause, et il s'en sort. Les militaires le font tous les jours. J'ai un autre problème qui est celui de Ali Seibou, chef d'état-major, qui ne prend pas certaines situations au sérieux. C'est aujourd'hui seulement qu'il intéresse. Parmi ton groupe-là, il y en a des gens qui ont décidé de le tuer. Mais, je vais te dire aujourd'hui, c'est un cousin direct à moi, et il m'a tellement rendu de service, je ne veux pas qu'il soit tué pour rien. Ce qui fait que Le soir, vers 4 heures, c'est moi qui vais lui téléphoner de Paris. Qu'il te rejoigne à Drenne vers 6h, 6h30. Aussitôt arrivé, tu le mets sur clé. Et tu mets certaines gardes autour. Et tu descends en ville pour faire ton opération. Moi, tu m'as rendu service. Au cas où ça n'a pas marché, il ne faut jamais que je te laisse au pays. Et je te trouve au pays. Encore une fois, pour éviter que moi aussi je t'étouille. Mais j'allais récupérer mon Ali Sebou, que grâce à toi, on a mis en valeur. On va voir ce qu'on va faire de lui. Et j'ai accepté.
6 octobre 1983. Alors que le président Sédhi Kounché est en visite à Paris, Broncano, son homme Lige et Marabout décident de passer à l'action. Comme prévu dans son plan, Broncano fait arrêter d'abord le chef d'état-major des armées. Cette première partie du plan se déroule sans anicroche. Le colonel Ali Chebou.
J'ai été arrêté comme beaucoup d'autres et on m'a amené derrière le fleuve chez Broncano. C'est là-bas où nous avons été transférés et gardés séparément, évidemment, dans les différents locaux là-bas. Je ne savais pas qui est là à côté de vous comme voisin, et ainsi de suite. On sait simplement ceux qui sont dans la même baraque que vous, c'est tout.
Pendant que vous étiez incarcéré, avez-vous vu Broncano?
Je l'ai vu, et je lui ai même dit, ah, Broncano, je ne sais pas à quoi vous êtes en train de jouer. Si c'est un coup d'état que vous voulez faire, vous trompez. Parce que moi, je ne suis pas seul. Et la personne contre laquelle vous préparez le coup d'état, je crois, ne marche pas seul aussi. Donc, je crois que il faudrait réviser vos positions pour éviter au Niger un bain de sang.
Alors que les événements s'accélèrent, le président Sédhi Kounché, qui n'a pas pu joindre Niamey par téléphone, a terminé son séjour officiel à Paris et reprend l'avion pour rejoindre le Niger. Daouda Diallo, le ministre des Affaires étrangères, était dans l'avion de retour avec le président Sédhi Kounché.
C'est en plein vol alors que le message a été envoyé à l'avion pour dire que l'avion ne devait pas arriver à Niamey, les nouvelles autorités interdisant à l'avion d'atterrir à Niamey. Sa réaction, ce que j'ai observé, parce que bon, quand la nouvelle a été portée à sa connaissance, il était avec moi et son directeur de cabinet, on discutait. Quand il nous a quittés pour aller dans le cockpit, et après je suis allé dans le cockpit, il s'est aperçu qu'on m'a informé et il m'a invité à m'asseoir à côté de lui. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il ne croyait pas du tout que ce soit un coup d'État. Il pense qu'il a utilisé le mot, c'est encore la pagaille de Niamey. Voilà. Il n'a pas cru un instant qu'il avait été renversé.
L'avion du président, le Mont-Bagazam, qui poursuit malgré tout son voyage, effectue une escale à Alger pour s'approvisionner en carburant. En fait, il y a été détourné aux premières heures de la tentative de putsch par ceux qui se sont présentés comme les nouvelles autorités du Niger. Mais Kounché refuse l'exil que lui propose le président Chadli Ben Chedid d'Algérie. Il souhaite tout simplement approvisionner son avion en carburant. Sur place à l'aéroport d'Alger, l'accueil est un peu glacial.
Les Algériens étaient persuadés qu'il n'était plus président. D'ailleurs, Chadli, contrairement à l'habitude, et pour la première fois, n'était pas venu le saluer à l'aéroport. Il a envoyé son ministre de la Justice, alors que Kounché était en compagnie de Sankara. Il y avait quand même deux chefs d'État. Donc, pour les Algériens, il n'y avait pas de doute, il n'était plus président. Donc, Chadli a envoyé lui dire qu'il était disposé à lui accorder l'hospitalité en Algérie. Kounché a décliné l'offre, bien entendu. Il a proposé que son avion transporte Kounché et que le Mont Bagazam atterrisse à Niamey. Enfin, quelque chose de très compliqué. Kounché a balayé tout ça de revers la main. Et puis voilà, nous avons repris le Mont Bagazam pour Niamey.
Sédhi Kounché, toujours en compagnie de Thomas Sankara, redécolle donc. Direction Niamey. La capitale nigérienne, bien que soutenue par quelques officiers dont certains ont réussi à occuper quelques objectifs stratégiques, le coup de force ne se passe pas exactement comme prévu.
L'armée, c'est pas l'armoire. C'est quand vous ouvrez, vous fermez comme vous voulez, et quand vous le ouvrez, et il se peut que vous trouvez quelques amerdes. Barré s'est maquillé. Il a fermé sa compagnie. Il m'a téléphoné. Il m'a dit de venir, on va négocier. J'ai dit non, on négocie pas. Il n'y a rien à négocier. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bon, je veux savoir où se trouve le chef d'état-major, par exemple. J'ai dit, mais le chef d'état-major, c'est celui qui est à l'état-major. je suis à l'état-major, je t'attends, tu viens. Il dit, ah non, tu viens ici, on négocie, il y a d'ailleurs tel officier, il a cité certains qu'on a cherché chez eux, qu'on n'a pas trouvé, qui sont celui, tels que Toumba Boubacar et autres.
Au fil des heures, le plan commence à s'effondrer. Rien ne marche exactement comme convenu. L'armée régulière reprend peu à peu les positions perdues. Abdallah Wafi, le chef du service des renseignements du président Kounché.
Tel qu'il était conçu, ce coup ne pouvait pas réussir. Je ne vais pas rentrer dans les détails militaires des préparatifs. Mais franchement, il ne pouvait pas réussir dans la mesure où tout avait été mis en œuvre, j'allais dire, pour qu'il échoue. Maintenant, quand les opérations militaires ont commencé, qui a mis le grain de sable qui a fait échouer le coup? À mon avis, c'est certainement le défunt président Barry. Il était commandant à l'époque, il était commandant de la compagnie parachutiste. Et ce jour-là, il était avec moi, il présidait la réunion de mon mariage, chez moi, avec ma famille. Lorsque, à 23h, il a été informé que le putsch venait d'être déclenché. Un de ses jeunes frères était venu l'informer et aussitôt, il avait regagné son unité. Et par la suite, comme vous le savez, le commandant de bataillon de Niamey, Amadou Seydou, qui était impliqué, avait été mis aux arrêts par le commandant Barré, qui a pris des dispositions très simples et c'était terminé. Il ne pouvait plus avoir de coup, il tenait la place de Niamey, il avait la loyauté des autres commandants d'unité. Et les autres n'avaient plus qu'à prendre la fuite de ce qu'ils ont fait.
Amadou Oumarou dit bon canon.
C'est Barré qui a fait décapoter notre révolution de palais.
La révolution de palais, comme l'appelle Bonkano, tourne au fiasco. La tension est à son comble à Niamey, puisque la personnalité de l'auteur fait peur à la plupart des officiers et des membres du gouvernement en place. L'avion du président est encore dans les airs. Alors beaucoup attendent son retour avec impatience. Bonkano, lui, ne fait pas partie de ceux-là. Il sait que Kounché, comme il l'avait promis, ne lui fera pas de cadeau s'il le trouve encore sur place. La seule solution pour lui est celle de la fuite. Il s'éclipse donc très discrètement.
Au niveau de l'état-major, il existe une maison qui s'appelle le Guernier. Ce Guernier, là, quand un président de la République rentre chez lui ce soir, même s'il est au capital, il y a un mot qui est écrit fermé, remis à un sous-officier qui rentre là-bas, on ferme, on sort la clé. Il y a un appareil devant cet homme. Quand il entend un rafale, il attend deux rafales où il sait maintenant effectivement le premier rafale a eu réponse, ce qui veut dire il y a quelque chose qui se passe dehors. Là, il a des instructions, il déchire le papier, les instructions du chef de l'État se trouvent à l'intérieur et il doit percuter ça sur place à toutes les compagnies jusqu'à l'intérieur du pays. Maintenant, il y a le mot de passe qui ferme les frontières du pays, qui ne dépendent pas de lui. Ce qui fait que le président Kounké a laissé cet dispositif militaire intact sans me prévenir. Là, il ne me les a pas dit. Je ne connais pas l'existence de Guernier.
Les services de renseignement et l'armée sont un peu frileux, ne sachant quelle attitude adopter. Ils vont le laisser quitter le pays, sans trop chercher à l'intercepter. Abdallah Wafi, le chef de service de renseignement de Séni Kounché.
Je peux vous assurer que c'est moi qui ai informé l'état-major, le colonel Toumba Boubacar, de la fuite de Bonkano. Mais je peux aussi vous assurer que Bonkano serait resté le 6 octobre jusqu'au soir, que personne n'aurait osé l'arrêter. Et le 6 octobre au matin, à 9h du matin, j'ai été à l'état-major, où je trouvais le colonel Toumba Boubacar, adjoint au chef d'état-major général des FAN, qui assurait l'intérim de l'état-major, puisque comme vous le savez, le chef d'état-major avait été arrêté. Il m'a reçu avec le directeur général de la police pour nous dire ce qu'il savait. Et une heure ou deux heures de temps après, j'ai reçu un message radio du poste frontière de Makalondi nous annonçant qu'un véhicule Mercedes avait brisé leur barrière, qu'ils avaient engagé la poursuite. Ils les ont rattrapés au premier poste frontière, c'est-à-dire Kantiari. Les autorités burkinabées leur ont permis de les identifier, de prendre leur identité et de retourner sans les livrer. Et c'est moi qui ai reçu ce message radio, je l'ai porté, j'ai informé l'autorité militaire. Et voilà tout naturellement comment Bonkano a pu s'enfuir. Mais enfin, au moment où il fuyait, personne ne le recherchait.
C'est un héros que le président Kounché arrive quelques heures plus tard dans la ville de Niamey, sécurisée.
Utiliser le mot coup d'État, je crois que c'est beaucoup dire. On ne peut pas empêcher à l'être humain d'être ambitieux. C'est tout à fait logique et normal. Mais étant au dehors, rien ne présageait pour moi que de telles situations pouvaient se passer. Sans doute que dans le monde actuel, tout est possible, même l'imprévisible. Je peux dire que c'est un accident fâcheux qui n'entend
Après cet épisode, Sénie Kountché va, comme il l'avait promis, bannir Bongkanou qui entame un long exil, d'abord africain, puis européen, qui pourrait à lui seul faire l'objet d'une émission. Une sécheresse encore plus rude que celle de 1974 menace les Nigériens. Sénie Kountché sait qu'il joue là, à ce moment-là, sa place. Il va déployer un trésor d'énergie et d'inventivité pour éviter le pire.
L'objectif que nous recherchons, c'est de pouvoir mettre à la disposition de ces populations des moyens leur permettant d'entreprendre une deuxième culture. Et c'est ainsi qu'au Niger, à l'intérieur, c'est-à-dire au centre, à partir des potentialités spécifiques que nous avons eues à faire deux barrages, nous ayant permis de dégager près de 3 à 4 000 hectares d'irrigation.
Une attitude, une mobilisation qui impressionne fortement la communauté internationale.
Mais il ne s'agit pas de faire naître des réflexes de probité, de droiture, si on ne montre pas l'exemple.
Sénie Kountché est sur tous les fronts. Et avec lui, pas de villa de la sécheresse, pas question non plus de mendicité. Il va frapper aux bonnes portes.
Il va de soi que les efforts d'un seul pays ne permettent pas d'arriver, d'obtenir des résultats tels que nous le souhaitons. Si sans doute chaque pays compte sur ses propres efforts, en sensibilisant la population dans la recherche de l'autosuffisance alimentaire, nous avons senti aussi la nécessité et le besoin de nous regrouper.
Sénie Kountché va se rendre d'abord aux États-Unis d'Amérique en décembre 1984 pour solliciter une aide. Puis Paris en 1986 pour rencontrer le président François Mitterrand.
Il ne faudrait pas que l'aide alimentaire prenne le pas sur l'aide au développement. Parce qu'avant tout, combattre la sécheresse, les effets de la sécheresse, c'est donner les moyens aux populations du Sahel de se développer. Par quels moyens arrivons-nous ? Chaque pays dispose des mécanismes au plan bilatéral avec tel pays ou tel pays pour bénéficier des moyens du développement. Nous avons l'institution SILS, mais à l'intérieur de ce comité interétat de lutte contre la sécheresse, nous avons aussi notre organisation qui regroupe toutes les bonnes volontés et que nous avons appelées les organisations non gouvernementales, qui souvent, et suivant effectivement leur choix, leurs désirs peuvent intervenir ça et là, au-delà des impératifs gouvernementaux.
Fier et digne, Sénie Kountché accepte certes l'aide, mais refuse dans cette période de guerre froide de s'aligner derrière une grande puissance coloniale ou idéologique. Va-t-il parvenir à tenir, à se maintenir au pouvoir et à parvenir à l'autosuffisance alimentaire en adoptant cette solution ? A-t-il les moyens de garder cette indépendance dans un pays aussi menacé par la famine ? Et en plus avec à sa frontière un voisin, Muammar Kadhafi de Libye, dont les velléités expansionnistes sont sans limite et qui lorgne désormais sur son territoire. On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Sénie Kountché, 30 ans déjà. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission comme la première partie sur le site de RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre portable, votre téléphone, en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, qui compte 580 000 amis, grâce à votre soutien. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite des Archives d'Afrique spéciale Kountché. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.